Ce soir, on fait l'introduction au Nouveau Testament, après le fil rouge de la rédemption. On va regarder en survol quelques idées, quelques points sur le Nouveau Testament. C'est le genre de cours que j'ai toujours un peu de mal à savoir comment structurer ces survols, parce qu'il n'y a pas forcément d'articulation super... évidente au niveau des idées, quand tu parles de manière générale, quelles idées mettre en avant, comment faire les transitions. Il y a plusieurs manières de le voir. Moi, je veux faire quelques idées sur les différences entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Un petit peu un point sur la situation du peuple juif à l'arrivée de Jésus. Quelques points à noter sur le Nouveau Testament de manière générale, et puis quelques idées, une petite réflexion sur le fait que la Bible est complète avec l'arrivée du Nouveau Testament, et quelques points par rapport à ça. Le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, alors première question, première idée, c'est d'où vient le terme, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est dans Jérémie 31, 31 à 34. Le prophète dit, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc ça vient de l'idée de nouvelle alliance. Le testament, c'est le mot grec qui s'approche plus de cette idée-là par rapport à ce que disait Jérémie. Et donc c'est une nouvelle alliance, nouveau testament. Jésus est la culmination de la Bible. Le point culminant, c'est le point culminant d'après la Bible de l'histoire humaine. Et c'est là, on a regardé un petit peu avec la rédemption, le fil rouge de la rédemption, c'est l'idée que c'est le sommet de l'histoire de la Bible, quoi. L'Ancien Testament amène jusqu'à Jésus. C'est le sommet du plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. C'est le point d'orgue. Et c'est pour ça que sa vie, sa mort, sa résurrection et ses paroles sont le point central de la Bible. Évidemment, c'est Dieu incarné, donc c'est important directement. Et on va voir que la semaine prochaine, les évangiles nous donnent vraiment beaucoup de détails, nous donnent un peu une image en 3D avec différentes manières de voir sa vie et de voir comment... son passage sur terre a eu lieu et ça nous donne une grande richesse de compréhension par rapport à sa vie. Et ensuite, le Nouveau Testament nous donne les conséquences de sa vie avec la naissance de l'Église et l'œuvre des apôtres qu'il a formée, qu'il a préparée, et avec les actes et les épîtres, on voit le développement de l'Église. Et puis Apocalypse nous explique que l'Église va continuer à se développer ou vivre jusqu'à le retour de Jésus et la conclusion de l'histoire humaine. Et on a regardé aussi l'idée que l'Ancien Testament parle de la vie de Jésus et ça nous donne c'est l'objectif de tout, c'est la vie de Jésus. Et on va en reparler par rapport aux prophéties un petit peu avec l'idée que la Bible est complète. Je voulais noter par rapport au contraste entre le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, l'idée que l'Ancien Testament, c'est des récits sur plusieurs milliers d'années d'histoire qui ont été écrits sur 1500 ans par plein d'auteurs différents, comme on a pu le voir. C'est vraiment une vue très large. Et l'Ancien Testament, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est en l'espace d'une vie, quoi, qui est compris, qui est quasiment tout écrit sur la vie des apôtres, en 50 ans, même pas, les dates des livres du Nouveau Testament, leur date d'écriture, on estime que c'est entre 40 et 65, donc c'est 25-30 ans d'écriture, et puis on a peut-être on peut inclure le temps de la vie de Jésus.
On pourrait dire que c'est une biographie aussi, parce qu'on parle de la vie de quelqu'un.
Oui. Et ce fait-là donne vraiment une différence entre le Nouveau Testament, qui est sur une époque, quelque chose de tellement large que ça donne un caractère différent au Nouveau Testament. C'est aussi des choses qui sont écrites par les témoins oculaires ou des gens qui ont reçu les histoires de la part des témoins directs. Et c'est tous des livres qui ont été écrits, finalisés, pendant que des témoins et plusieurs personnes qui étaient présentes lors des événements décrits étaient encore en vie. Ça aussi, ça donne un caractère particulier au Nouveau Testament. Et encore une fois, ça s'explique simplement par le fait que l'objectif du Nouveau Testament, c'est de nous décrire la vie de Jésus et les conséquences, surtout immédiates, de sa vie et de l'effet que sa vie a eu sur le monde de l'époque. C'est Jean qui conclut son évangile en disant que l'idée qu'on ne peut pas suffisamment écrire sur Jésus, dans Jean 21-25, à la toute fin de son évangile, il dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Et ça, si vous avez déjà étudié des événements dans l'histoire, si vous regardez la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, il y a encore de nos jours des gens qui écrivent des livres sur des petits détails, etc. Et ça me fait penser à ça, cette idée que il aurait pu avoir plein d'autres écrits, d'autres études.
Moi, je pense qu'il y a eu une coupure entre après l'adolescence de Jésus et puis jusqu'à qu'il ait l'âge de 33 ans. Mm-hmm. Pourquoi il y a eu ce petit espace? Pourquoi on n'a pas mentionné ça dans la Bible?
On n'est pas sûr de ces choses-là, ces genres de questions. On voit que qu'il a une période de ministère qui est quelque chose qui lui est donné par Dieu. Mm-hmm. Il a un moment où il doit se révéler et commencer son œuvre, et qu'avant ça, il doit être soumis à ses parents et vivre un peu dans la tranquillité, quoi.
Donc il n'y avait rien de pas grand-chose, c'est-à-dire.
On imagine que sa vie a eu un effet et que Dieu incarné, même adolescent, et c'est pas parce qu'on n'en a pas écrit quelque chose que ça n'a pas d'importance. Mm-hmm. On voit avec Paul et dans l'Apocalypse, mm-hmm, qu'à plusieurs moments, Paul nous explique qu'il avait vu, des visions où il pensait être au ciel, et Dieu lui avait dit de ne pas écrire ce qu'il avait vu. Et on voit aussi dans l'Apocalypse, où Jean est en train de voir des choses, un des anges lui dit de ne pas écrire ce qu'il vient de voir. Donc il y a simplement l'idée que c'est Dieu qui dirige, qui sait ce dont on a besoin et qui limite la parole à ce dont on a besoin. On n'en a pas besoin de tout, et ce qu'il nous a donné est complet et suffisant pour son œuvre parfaite. Donc il n'y a pas besoin de plus, mais on a
parce
toujours...
Parce qu'on a dit que Jésus était humain, il a aussi vécu une vie normale, donc on n'a pas besoin de savoir de ça, tu vois. On avait juste savoir des choses...
Peut-être.
Voilà, important. Parce qu'il était aussi moitié humain, donc peut-être il a sorti avec les amis, des choses qui se passent. Mais voilà, comme tout humain fait ça, tu vois, donc peut-être
c'est
pas mentionné dans la Bible.
On sait qu'il était charpentier, qu'il travaillait, voilà. Il a dû faire des trucs en bois pour...
On n'a pas besoin de savoir ça, c'est pas
se lever, faire sa vie.
Supporter les péchés, non, je ne sais pas.
Un autre Point à noter, peut-être par rapport à l'Ancien Testament, que je trouvais intéressant, c'était l'époque. Et quand on avait regardé l'Ancien Testament, on avait dit qu'il y avait pas mal de choses qui avaient disparu et qu'on avait trouvé que récemment, il y avait des choses sur des rois, au niveau d'empires, certains des empires qui couvraient la moitié du monde connu de l'époque, parmi les empires perses, les empires... qu'est-ce qu'on avait vu? Il y avait l'empire babylonien, les choses comme ça, où finalement, ces choses-là n'ont été redécouvertes par l'archéologie moderne qu'en 1800, 1900, et pendant longtemps, on se demandait même si c'était des légendes. De nos jours encore, il y a des choses sur l'empire perse, par exemple, sur l'empire qui a détruit l'empire babylonien et qui sera plus tard détruit par Alexandre le Grand. On s'aperçoit en fait que même de nos jours, même avec toute l'archéologie moderne, on sait très 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 peu de choses sur ces rois, alors que c'était des rois qui avaient des empires immenses, qui avaient des villes fortifiées incroyables, avec des scribes et des personnes qui mettaient des choses. Et je dis ça parce que le développement de la science, de l'histoire et de la connaissance qui se développe à l'époque des Romains, les conditions géopolitiques, les conditions mondiales, les conditions qui viennent grâce au monde romain vont permettre de conserver tous ces textes qu'on a, vont permettre de conserver énormément de choses sur l'archéologie, sur l'histoire de l'époque de Jésus. Et grâce à ça, on a énormément de choses qui restent par rapport à l'Église naissante, par rapport à la vie de Jésus. Les historiens, il y a des historiens juifs ou romains qui ont rapporté plein de choses. On sait qu'il y avait la Pax Romana, la paix qui dominait dans tout l'empire, qui donnait une stabilité à toute la situation. Souvent, c'est lors de guerres ou de passation de pouvoir entre des empires, les choses sont détruites. Il y avait une langue, la langue grecque, qui permettait une unification au niveau du savoir scientifique et de la connaissance, qui permettait de communiquer entre tous les peuples, alors qu'avant c'était peut-être quelque chose de plus compliqué. On voit avec le développement de l'Église par rapport à ça, la langue, les lettres, et aussi le fait qu'il y avait une sûreté, une facilité pour voyager dans tout l'Empire romain, pour disséminer l'Évangile.
Les Grecs devaient la langue officielle, mais après... Au niveau des églises, c'est toujours le latin qu'on utilisait, non?
Non, c'est le grec.
C'est le grec. Le latin, on a
le latin, c'est... Non, le latin, c'est après.
C'est après,
plus tard, oui. Ah, c'est plus tard. Le grec était la langue de l'époque, et ce n'est que plus tard que l'Empire romain va commencer à imposer ça de manière plus large. Et les traductions en latin de la Bible, il y a par exemple la Vulgate.
Oui.
Qui est la plus connue, qui date de 390 et quelques.
C'est la première Bible, non? La Vulgate.
Non.
Le premier, non?
Non. On en parlera un petit peu, mais c'est pas la première. Mm-hmm. En tout cas, cette situation par rapport à l'Ancien Testament et par rapport au monde de l'époque est propice. Évidemment, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu savait ce dont il avait besoin, mais on le voit. Notamment dans Actes, toutes ces choses-là qui concourent au développement de l'Église. Pour le peuple juif, on va se tourner vers eux, entre Malachie, qui était le dernier livre de l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence de la part de Dieu, où les Juifs n'ont pas l'impression d'avoir de communication, sont un petit peu, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de retour. On voit, on avait mentionné en regardant dans Esdras et Néhémie l'état dans lequel le peuple était, qui était vraiment mauvais. Ils connaissaient à peine la loi, ils étaient un peu dans le désarroi, ils se mélangeaient avec les peuples autour, ils n'étaient pas particulièrement attachés à leur unité nationale, et c'était ce que Esdras et Néhémie devaient faire sans cesse leur rappeler. Et on avait vu certaines des histoires qui montraient que Esdras et Néhémie leur rappelaient, et puis quelques années plus tard, ils avaient laissé tomber. Et moi, ça m'avait... J'avais jamais vraiment fait le lien, mais je m'étais posé la question, comment est-ce qu'ils font pour arriver à... Quand on arrive à l'époque de Jésus, on a l'impression qu'ils sont vraiment unis, qu'il y a une cohésion politique, une cohésion religieuse par rapport au groupe, aux scribes, aux pharisiens, tout ça. Alors que quand on lit la fin d'Esdras et Néhémie, on se dit que dans 100 ans, ils seront mélangés avec les peuples et que c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'identité du peuple juif. Et on va regarder un petit peu certains épisodes de cette période entre les deux testaments, la période intertestamentaire. Et je me suis dit, c'est assez fou. Et ça, évidemment, il y a des textes historiques. Dans la Bible catholique, il y a les livres de 1 et 2 Maccabée qui décrivent des événements qui se sont passés entre 200 et 150 avant Jésus-Christ, qui permettent de voir un petit peu et qui ne sont pas considérés comme étant dans le canon évangélique ou protestant, qui n'étaient pas à l'origine dans le canon catholique non plus, ils l'ont rajouté bien plus tard. Et c'est des livres qu'on considère comme n'étant pas dans le canon, mais qui ont un intérêt historique parce qu'ils nous montrent ce qui s'est passé pendant ces 400 ans. Il y a d'autres livres, évidemment, il y a d'autres sources historiques. On verra, c'est Jean-Baptiste, c'est les parents de Jean-Baptiste, il y a l'histoire du papa de Jean-Baptiste qui est dans le temple, qui sert, et puis qui ressort, qui est muet, et qui a une vision, et c'est un petit peu ils ont enfin Dieu qui fait quelque chose, d'une certaine manière. Et pour le peuple juif, il y a six périodes pendant ces 400 ans qu'on peut distinguer. Quand on les quitte, ils sont encore une province sous l'Empire perse. Ensuite, il y a l'Empire grec avec Alexandre le Grand. Ensuite, il y a deux généraux d'Alexandre qui vont donner des dynasties au nord, on va dire la Syrie-Turquie et au sud avec l'Égypte. Et c'est d'abord les Ptolémées qui sont au sud avec l'Égypte. Ptolémée était un général d'Alexandre qui va dominer sur le territoire juif. Et ensuite, il y aura les Séleucides qui, eux, étaient plus au nord, qui vont dominer. Et ensuite, il y a la période avec les Maccabées, donc la révolte, le soulèvement des Maccabées qui vont libérer le peuple de la domination des Séleucides, qui vont donner une dynastie qui était appelée la dynastie des Asmonéens. Et puis ensuite, il y a l'Empire romain qui débarque. Donc je disais qu'après l'exil, il n'y avait pas particulièrement de groupe politique particulier. Ça semblait assez neutre. Il y avait Esdras et Néhémie qui étaient un peu des gouverneurs de la part des Perses qui devaient diriger un peu les choses. Mais ils avaient des prêtres qu'ils avaient remis en place pour qu'il puisse y avoir le culte au temple, mais il n'y a pas forcément de choses fortes. Et vous savez, ayant lu le Nouveau Testament, qu'il y a des groupes avec des identités très fortes quand Jésus arrive sur la scène. Il y a les scribes, les pharisiens, les sadducéens. On va regarder un petit peu ces différents groupes et d'où ils venaient et pourquoi ça arrive. Ça va beaucoup conditionner les choses. Quelques remarques sur le culte et la langue avant de regarder ces différents groupes. Avant le temps de Jésus, il y avait surtout le culte qui était au temple. Et on voit qu'à l'époque de Jésus, il y a le temple et les synagogues. Et c'est marrant en fait parce que synagogue, on se dit toujours. C'est un mot qui est associé aux Juifs, dans notre esprit, à l'hébreu, et c'est un mot grec, qui veut dire ensemble ou se réunir. Et c'est en fait un vestige de l'exil en Assyrie, en Babylone, où ils avaient ces lieux où ils se rassemblaient pour lire la parole de Dieu et se rappeler la parole de Dieu. Mais en fait, c'est quelque chose qui est venu après et qui prend de l'importance jusqu'au temps de Jésus et qui, après la destruction du temple, va être le lieu de culte des Juifs. C'est que le temple va être détruit en 70 après Jésus par les Romains. Et puis l'autre remarque que je voulais faire, c'était la langue, à savoir que dans l'Ancien Testament, c'est l'hébreu principalement, et que le Nouveau Testament va amener vraiment le grec et un petit peu d'araméen, qui était un dialecte hébreu. Mais c'est surtout le grec qui est utilisé pour l'écriture du Nouveau Testament. On avait vu que il y avait ce qu'on appelait la traduction de la Septante de l'Ancien Testament qui avait été faite par 72 anciens. C'est allumé ? Ouais. Qui avait été faite par 72 anciens et sages juifs à Alexandrie dans l'Empire, donc c'était les Ptolémées. Et ça a servi pendant longtemps comme le texte pour les juifs. En fait, ils se sont servis de ça pendant longtemps. Plus tard, ils vont un petit peu décider qu'ils veulent ne pas utiliser la Septante et adopter une autre traduction ou texte comme référence pour l'Ancien Testament pour le culte du peuple juif. Mais on voit qu'il y a vraiment l'influence du grec puisque la Septante était en grec. Alors les groupes influents, vous les connaissez de l'histoire de la vie de Jésus pour la plupart. Les pharisiens, c'était les légalistes. Ça veut dire les séparés. Ils voulaient vraiment connaître la parole de Dieu. Ils portaient des versets sur leur front, dans des phylactères ou sur leurs poignets, pour être fidèles à la lettre de la loi. Ils voulaient vraiment transmettre l'enseignement de la Bible. Mais ce qu'ils vont faire, et là où ça devient vraiment un problème, c'est qu'ils ils vont commencer à interpréter et à rajouter plein de règles à la loi de Moïse. Au final, à l'époque de Jésus, on estime que c'était 500 ou 600 règles en plus. Et c'était, en fait, ils ont changé la loi de Dieu en une liste de règles humaines.
C'est pour ça que Jésus les a manqués de vous avez tout ça là, mais vous appliquez pas ça.
Puis il les traitait d'hypocrites aussi, du fait qu'ils respectaient la lettre de la loi, mais ils ne respectaient pas l'esprit. Et ils n'avaient pas vraiment de crainte de Dieu. Ils le faisaient plutôt par fierté, par position au niveau du peuple. Et surtout, ils chargeaient le peuple avec des fardeaux que Dieu n'avait pas transmis. C'est par exemple, ils disaient le sabbat, vous connaissez sans doute le sabbat, et il ne faut pas travailler le sabbat. Et eux, ils disaient, marcher, est-ce que c'est travailler? Parce qu'on utilise ses muscles. Donc, on va dire que marcher 500 mètres, ça va, mais au-delà, c'est considéré comme du travail. Donc, vous avez le droit de marcher 500 mètres, mais pas plus. Donc, ils interprétaient et ils alourdissaient la loi avec plein de choses.
Aujourd'hui,
mais voilà. Oui, il y a des pharisiens dans l'église moderne, malheureusement, qui essaient de rajouter des choses. Alors, il y avait, dans la Bible, on en connaît deux bien, dont on a des histoires un peu plus détaillées, à savoir Nicodème, qui était un pharisien mais sincère. On voit son interaction avec Jésus. Et puis Paul, qui était pharisien des pharisiens de sa propre bouche, et qui avait un grand zèle pour Dieu, mais qui a été un zèle mal placé et un zèle avec une mauvaise compréhension. Il y avait plusieurs sous-divisions de groupes. Il y avait par exemple les Hasidim, qui étaient plus... se considéraient comme plus purs, plus parfaits, où il y en avait qu'ils appelaient les ensanglantés. Alors j'ai pas fait toute la liste, mais eux, quand ils se promenaient dans la rue, ils voulaient pas voir le mal dans le monde autour d'eux, donc ils marchaient avec les yeux fermés, mais du coup ils tapaient des choses et ils s'enorgueillissaient à dire moi je regarde même pas les choses du monde, je suis pur, mais à côté de ça, et donc ils prenaient les blessures comme des marques de je suis vraiment spirituel. Donc c'était un des groupes qu'on voit beaucoup, qui est souvent opposé à Jésus, évidemment. Les Hasidim, c'était un premier, et après il y avait les ensanglantés, alors j'ai pas. Il y a différents mots. Les Sadducéens, on entend parler aussi. Ça vient d'un mot qui veut dire juste ou saint. Et ils descendent d'un certain Tzadok, qui était le prêtre ou le grand prêtre, qu'on voit dans 2 Samuel. Et eux, ils venaient en fait tous de cette sous-famille de prêtres, qui descendaient de ce personnage Tzadok. Et eux, ils contrôlaient le temple, les rituels, la liturgie. Et on considère en fait qu'ils avaient une doctrine un peu libérale à l'époque. Bizarrement en fait, parce qu'ils ne respectaient que la Torah. En fait, ils rejetaient tout le reste de l'Ancien Testament et eux, ils considéraient que la Torah. Donc ils disaient, nous, on retourne aux sources en quelque sorte. Mais ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, ils ne croyaient pas aux anges, en quelque sorte ils ne croyaient pas au surnaturel, et ils étaient opposés aux pharisiens. Mais on voit dans la vie de Jésus qu'ils sont prêts à mettre de côté leurs oppositions entre eux pour s'allier, pour être contre Jésus. Ensuite il y avait un groupe qui s'appelait les Esséniens, qui eux étaient les ermites. C'est les isolationnistes ou les moines. Ils voulaient se cacher pour vivre leur foi.
Comment tu les appelles ?
Les Esséniens. E-S-S-E-N-I-E-N-S. On pense que c'est eux, par exemple, qui ont caché les manuscrits qu'on a trouvés dans les grottes de Qumran. Eux vivaient à part, cachés quelque sorte. L'idée c'était un petit peu que le monde était corrompu et que pour vivre leur foi il fallait qu'ils se cachent ou qu'ils vivent à part, séparés. Certains commentateurs pensent que Jean-Baptiste était peut-être influencé par ça ou était peut-être impliqué directement ou indirectement avec ce groupe là. Voilà.
On en parle beaucoup
dans la Bible ? Non, dans la Bible pas vraiment. C'est séparément et notamment par rapport à des découvertes plutôt par rapport à l'archéologie et ces choses-là qu'on en vient plus à parler. Ensuite, il y a un groupe qui s'appelle les Hérodiens, dont on parle aussi de manière très brève dans la Bible, qui était du nom du roi Hérode. Et eux, ils étaient en faveur du statu quo politique. Ils ne voulaient pas que ça change. Et alors... Hérode et la dynastie des Hérodiens, en fait, étaient descendus des ce qu'on appelle les Iduméens. Et on pense que c'était les descendants d'Édom et les descendants d'Ésaü, dont on avait parlé brièvement en disant qu'ils étaient toujours opposés à Israël et qu'ils profitaient des invasions des empires étrangers pour aller piller après le passage des armées étrangères chez les Juifs. Et en fait, alors, je crois que c'est le père de Hérode le Grand qui se convertit au judaïsme et qui va monter un peu en grade dans l'Empire romain et qui va être placé au-dessus. C'est assez compliqué en fait, parce que dans la Bible on parle d'Hérode, mais pas. En fait, on pense qu'il y avait Hérode le Grand qui était au pouvoir quand Jésus est né, et le Hérode dont il est question plus tard dans la Bible, avec les apôtres et tout ça, c'est son fils en fait. Et on voit en fait que le territoire de la Palestine est divisé, et à l'époque des apôtres va être sous plusieurs de ses enfants, ses lignées. On peut étudier, il y a tout un, vous allez regarder des choses sur des pages ou des livres d'histoire ou sur des sites qui décrivent ces choses là. Et quand on parle des Hérodiens, en fait, c'était des Juifs qui avaient intérêt à ce qu'Hérode reste en place, parce qu'ils avaient gagné la confiance, en quelque sorte, de l'occupant romain. Et ils profitaient de leur amitié avec Hérode et le pouvoir en place pour leur gain personnel. C'était plutôt des gens qui étaient détestés par le peuple, parce que ça représentait un peu le pouvoir romain. Ça va de pair avec les publicains, qui étaient des Juifs qui percevaient l'impôt pour les Romains, eux aussi qui sont un petit peu de mèche avec le pouvoir en place, quoi. Dont on parle aussi dans le dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Ensuite, il y avait les zélotes. C'est un groupe dont on parle pas trop. Eux, c'est les...
Quoi ? On en parle un petit peu, je crois.
Simon le zélote.
Oui, Simon le zélote, et on en... mais pas beaucoup, disons. C'est mentionné, mais pas... C'est les... Ceux qui sont mentionnés le plus, c'est les pharisiens, les sadducéens et les scribes.
Les zélotes, c'est pas comme les pharisiens.
Les zélotes, non. Les zélotes, c'était des... C'était des activistes politiques. On pourrait même dire des terroristes, quoi. C'était des gens qui étaient prêts à faire des actions contre les Romains pour essayer de se débarrasser de l'occupation romaine. Et en fait, c'est eux qui vont se révolter après la vie de Jésus et qui vont amener la destruction de, qui vont causer la destruction de Jérusalem parce qu'ils vont soulever. Rome va venir éteindre toute rébellion. Et en fait, ils vont se regrouper. Il y a une forteresse qui s'appelle Massada. Et ils vont se regrouper et tenir, il y aura un siège en 73 après Jésus-Christ, donc après la destruction de Jérusalem. Et l'histoire veut que ils sont aperçus que les Romains allaient casser le siège, qu'ils ont décidé de se suicider plutôt que de se laisser prendre par les Romains. Leur cri de guerre était pas d'autre dieu que le Seigneur, pas d'autre impôt que ceux du temple, pas d'autre ami que les zélotes. Donc c'était un peu les gars, ils auraient amené la Première Guerre mondiale s'ils avaient pu. Les scribes. Pardon, tu avais une question?
En fait, c'est juste avant les zélotes, j'ai pas eu le temps de noter.
Les hérodiens. Hérodiens.
Ah, t'as pas dit autre chose?
J'ai parlé des publicains.
Ah, c'est ça. Merci.
Qui sont un petit peu, je l'ai mentionné juste, parce que les publicains, c'était des juifs qui percevaient l'impôt pour le compte des Romains. Donc c'est un peu lié aux Hérodiens, quoi. C'est un peu la même idée. Ils vont avec les Romains. Donc c'était des groupes. Il y a les scribes, qui sont les traditionalistes, qui étaient responsables de copier l'Ancien Testament. C'était des hommes de loi, des archivistes, qui considéraient qu'ils avaient vraiment un appel de Dieu pour conserver sa parole et qu'il y avait plein de rituels très compliqués sur comment il copiait la Bible, sur les supports, sur les... Quand il faisait des erreurs, ils avaient des méthodes pour détecter des erreurs. Par exemple, ils allaient copier une ligne sur une page et ils allaient regarder, ils comptaient le nombre de lettres et puis ils regardaient la lettre qui était au milieu de la ligne, comme ça, et après ils le notaient dans la marge, comme ça quand ils recopiaient, ils pouvaient aller vérifier si la lettre était bien au milieu de la ligne après avoir copié pour essayer de dire. Enfin, vraiment, ils ont passé, ils ont copié, ils ont bien copié.
Ouais.
On leur doit la plus grande partie de la transcription de l'Ancien Testament. C'est intéressant aussi parce qu'ils avaient tellement de respect pour la parole de Dieu que quand une copie n'était plus vraiment utilisable, quand il y avait peut-être des choses qui s'étaient trop abîmées, ou quand c'était plus lisible, l'encre était peut-être devenue trop fade, ou des choses comme ça. En fait, ils refusaient de le détruire. Et ce qu'ils faisaient, c'était le cacher. Et on pense que c'est aussi les raisons pour lesquelles on a trouvé, et on trouve encore, des fragments et des restes, les grottes de Qumran, etc. Parce qu'ils refusaient ils n'allaient pas les brûler. Il est caché quelque part dans une jarre, dans une grotte. Ou... Donc ça nous a profité, évidemment. Ensuite, il y avait les naziréens, dont on entend parler aussi, qui faisaient un vœu de séparation, soit pour un temps, soit pour la vie. Et l'idée, c'était de se refuser pas mal de choses de la vie courante pour se rapprocher de Dieu. Vous en avez entendu parler. On sait que c'est Paul qui paye pour quatre cas qui vont faire un vœu quand il revient à Jérusalem dans Actes. Dans Actes, en fait, quand Paul revient finalement à Jérusalem avant d'être emprisonné, les gens de l'Église sont inquiets parce qu'ils savent que les Juifs pensent qu'ils parcourent le monde en disant qu'on peut être juif mais sans suivre les rituels. Et donc, il a les gens de l'église qui le conseillent et qui lui disent, avant d'aller au temple, paye pour ces quatre garçons, pour leurs vœux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, il va payer pour que ces gars puissent faire un vœu de naziréen pendant une période. Et,
on doit lire plus la Bible.
Bref, on peut regarder après. Ensuite, il y avait des prosélytes, il y avait des gens qui étaient convertis au judaïsme, qui n'étaient pas du peuple. Et puis, les derniers que je voulais noter, c'était les Maccabéens, ou les Maccabées. Et c'était des descendants d'une famille dont le nom était Maccabée. C'était une famille de prêtres dévoués qui vont prendre de l'importance sous ce personnage qu'on a mentionné qui s'appelle Antiochus IV. Ou Antioche IV, Épiphane ou Épiphanès. Et lui, c'était un empereur séleucide qui avait corrompu le temple en 170 environ avant Jésus-Christ, en faisant des sacrifices de porcs sur l'autel, et qui avait consacré le temple à Zeus. Et en fait, quand tout ça arrive, les Maccabées vont mener une révolte, un certain Simon Maccabée, et ils vont se défaire de la domination de cet empereur. Ils vont libérer le temple et ils vont le reconsacrer à Dieu. Et c'est l'origine de la fête de la Hanouka, la fête juive. C'est le moment où ils ont reconsacré le temple à Dieu en, on pense que c'est 165 avant Jésus-Christ. Et c'est donc ces Maccabées. C'est pour ça que c'est intéressant historiquement au moins d'aller lire ces livres si ça vous intéresse. Voilà, alors tous ces peuples donnent un petit peu tous ces groupes étaient un peu en lutte et donnent des... On va en parler quand on regarde les évangiles, quand on regarde certains des épisodes avec la vie de Paul et la vie de l'Église au début, parce que c'est le contexte, on va dire, politique ou géopolitique du peuple juif. Il y a évidemment l'influence romaine et ce que je vous ai dit au niveau de la politique romaine, on voit Paul notamment qui est citoyen romain, ça va affecter sa vie et son parcours, sa capacité à voyager et à pas être mis à mort tout de suite et notamment le fait qu'il puisse s'en appeler à César et être amené à Rome à la fin de sa vie. Voilà, donc toutes ces choses, je vais en reparler, puis je les rappellerai au fur et à mesure, hein, quand il y en a besoin, dans la suite de l'étude du Nouveau Testament. Quelques points à noter sur le Nouveau Testament, il y a la structure. On a cinq livres qu'on pourrait considérer comme historiques, les quatre évangiles, et ensuite le livre des Actes des apôtres. Pour les quatre évangiles, il y en a trois qu'on appelle les évangiles synoptiques, qui sont très proches au niveau de ce qui est décrit, des événements, et on peut faire les recoupements et on voit qu'il y a énormément de similitudes. On pense que c'est l'évangile de Luc, qui a été écrit en premier. On va regarder ça plus en détail la semaine prochaine avec les évangiles. Et qui aurait servi un petit peu de base pour Marc et pour Matthieu. On voit que Jean, c'est d'autres histoires sur la vie de Jésus souvent, il y a moins de choses qui se recoupent avec les trois évangiles. Et on s'aperçoit, même en faisant des études très détaillées, qu'ils avaient même des connaissances d'épîtres qui auraient été écrites avant les évangiles et qu'il y avait des choses qui ont été citées dans les évangiles qui auraient peut-être pris origine en fait avant dans les épîtres. On voit par exemple, rien que pour Luc, Luc a voyagé longtemps avec Paul et a sans doute écrit son livre à la fin quand Paul est emprisonné à Jérusalem et après à Rome. C'est lui, Luc, qui va écrire aussi le livre des Actes. Et on peut assez facilement se dire que Paul, entre ses voyages, écrivait aux églises, et donc il y avait ces épîtres qui ont été écrites, et que ce n'est qu'après que Luc, lui, a écrit son évangile, et etc., etc. Alors évidemment, c'est des études détaillée où les gens vont répertorier les mots dans le texte original et tous les fragments et faire des recoupements et essayer de faire des, c'est des études qui prennent une vie, et des gens qui écrivent des tomes entiers sur, sur rien que des détails linguistiques restreints. On verra les évangiles en détail la semaine prochaine, c'est très intéressant. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il y a les lettres qui devaient être utilisées dans les églises. C'était des lettres qui expliquaient comment ce que la vie de Jésus impliquait, comment vivre sa vie de chrétien en suivant pour suivre Jésus. Alors il y en a 13 ou 14 de Paul. Si on pense que Hébreux est écrit par Paul ou pas, ce n'est pas explicitement dit et on n'est pas sûr à 100%, donc ça reste ouvert à débat. Et ensuite, il y en a 7 autres qui sont écrits par d'autres personnages. Et ces lettres circulent, ont circulé dans les églises du premier siècle et vont finir par être acceptées comme faisant partie du canon.
Comment t'as dit ? 11 de Paul et 7 d'autres ?
Ça ? Non, 14. 14 de Paul et 7 de, d'autres.
Il y en a beaucoup plus que je pense. Que
il y a les 1 de Paul.
Ouais.
Ok. En tout, il y a 27 livres. Donc t'as les 4 évangiles, les actes, ça fait 22. Moins l'Apocalypse, ça fait 21. Donc il reste un paquet, quoi. Et donc il y a le dernier livre de la Bible qui est un livre de prophétie, un livre d'un écrit qu'on décrit comme étant un livre d'écrit apocalyptique, mais qui est celui qui a donné le terme, qui est cette vision de Jean. Les dates, quand est-ce que ces choses ont été écrites? C'est entre, je vous disais, entre 40 et on pense 65 après Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on dit ça avec pas mal de certitude? Premièrement, parce qu'il y a des choses que je vous disais par rapport à la vie des personnes quand ils ont été en vie. On a des choses par rapport aux manuscrits, bien que la plupart des manuscrits dont on dispose sont des manuscrits qui datent de plus tard, on n'a pas les originaux. Il y a des choses qu'on a trouvées dans des petits fragments du livre de Matthieu, qu'on a trouvé dans les grottes de Qumran, qu'on pense comme étant soit une version originale, soit une première copie du livre de Matthieu, en fait. Donc ce serait vraiment le tout début. Et en fait, les événements qui ne sont pas mentionnés, qui nous permettent de vraiment limiter les choses à 65, c'est par exemple la mort de Jacques, qui était le responsable de l'église à Jérusalem en 62. Il y a les persécutions de Néron contre les chrétiens qui vont commencer en 64. Il y a la révolte des juifs, ce que je vous disais, sous l'Empire romain, sous le règne romain à Jérusalem en 66. Et il y a la destruction du temple et de Jérusalem en 70. Et toutes ces choses ne sont pas mentionnées du tout dans les écrits. Et c'est des choses qui sont tellement marquantes pour le peuple et qui ont une influence sur la vie chrétienne, qu'il est difficile de penser qu'on aurait des écrits qui viennent après et qui ne parlent pas de ces choses-là. Donc tout le Nouveau Testament était écrit avant ces événements-là. Et avec ces livres, on arrive donc en 65 à une Bible qui est complète par rapport à ce qu'on a nous maintenant, ce qu'on a reçu. Comment est-ce qu'on arrive finalement, parce qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a les lettres qui circulent, il s'est écrit à différentes dates. Comment est-ce qu'on arrive à un canon fini? Alors pour vous le dire de manière honnête et brève, c'est compliqué. C'est très compliqué. Si ça vous intéresse là aussi, cet après-midi, je voulais un petit peu essayer d'un petit peu solidifier ce que j'allais vous dire. Et on a des copies, il y a des listes de copies qui sont dans différentes bibliothèques à Rome, en Angleterre, à la British Museum ou la British Library, qui viennent d'Alexandrie ou de Jérusalem au cours de l'histoire. Et Par exemple, j'ai regardé une page Wikipédia où ils recensent, je crois qu'il y a, sur cette page que je regardais, ils ont 350, ils appellent ça des codex, c'est un style de manuscrits qui date de 300 à 500, 600 après Jésus-Christ, et qui sont dans des bibliothèques de par le monde, et qui ont certaines parties de la Bible, etc. Donc c'est vraiment, c'est des histoires de recoupement, de moyennes, où ils vont comparer. Ensuite, on a différentes traductions, on a des choses pour l'Ancien Testament, on a la Septante, on a des choses qui viennent après par le peuple juif qu'ils appellent le Textus Receptus, il me semble. Ensuite, il y a ces codex et ces choses qui vont se développer dans les premiers temps de l'Église. On a des choses qui vont être développées en Alexandrie, mais aussi des choses qui vont se développer plus au nord, à Antioche, à Césarée, et après on pense à Byzance. Et donc toutes ces choses, il y a plein de manuscrits, il y a plein de documents, et c'est très intéressant. Là aussi, c'est des choses qui donnent lieu à des doctorats en théologie, en archéologie théologique, etc., avec des études. Ils vont prendre les manuscrits et regarder en détail avec des lasers les angles d'écriture pour essayer de déterminer quels outils ont écrit pour pouvoir dater le... C'est vraiment des choses... C'est très très intéressant, et l'idée, c'est que grosso modo, l'Église, ses lettres circulent, les évangiles sont passés dans les églises et lus et servent de base. Il y a d'autres écrits qui tournent aussi, d'autres lettres. Et petit à petit, on formalise une liste de textes officiels en disant ces textes sont cette lettre de Paul, cette lettre de Pierre, c'est vraiment la parole de Dieu, il n'y a aucune hésitation. C'était... Il voulait en général qu'il y ait ce qu'ils appelaient l'autorité apostolique, que ce soit ou un apôtre qui l'écrit ou quelqu'un qui a reçu directement d'un apôtre les choses qui sont détaillées. Par exemple, Luc était un compagnon de voyage de Paul, et dans son livre, il explique qu'il a fait des recherches en allant voir des témoins oculaires et en recevant de la part de Paul ce qu'il a écrit. On voit que, je crois que Marc, on pense que c'était le compagnon de Pierre, et que c'est donc Pierre qui lui aurait donné un petit peu la base, et ensuite Jean, bon, qui était apôtre, qui a reçu directement.
Parce qu'il y a eu des livres comme le livre de Judas qui a été exclu.
Voilà, il y a d'autres livres qui n'ont pas été inclus, et c'est en partie pour ça. L'autre chose qui est arrivée assez vite dans le Nouveau Testament et dans les premières années de l'Église, c'est des hérésies. Où il y a eu des choses qui sont arrivées. On voit dans Actes, par exemple, que déjà, il y a des problèmes avec la foi juive, où les juifs voulaient que les nouveaux chrétiens suivent la loi juive et se fassent circoncire, etc., et voulaient mélanger. Et donc, ils ont dû se mettre d'accord et dire, non, en fait, on pense que ça, c'est pas correct, c'est pas ce que Jésus voulait. Et donc les apôtres vont se mettre d'accord, et ça va donner l'autorité de l'Église à l'époque. Et en fait, il y a plein d'hérésies qui vont arriver, et beaucoup de choses qui sont des réponses à ces hérésies. Et on pense par exemple même que l'évangile de Jean, qui a été écrit plus tard que les autres évangiles, on pense que c'est peut-être une réponse à certaines hérésies, en fait, qui ont commencé à apparaître sur la vie de Jésus. Et Jean, pour contrer ces hérésies, a écrit cet évangile en appuyant sur la divinité de Jésus.
C'est lequel qui a été écrit en premier, d'ailleurs ?
On pense que c'est Luc. On va voir qu'ils ont été écrits avec des objectifs un petit peu différents, donc il y a différentes détails et différentes manières d'aborder les questions, mais je pense que c'est Luc en premier, après Matthieu, Marc un peu en même temps, et puis... Jean plus tard. On a des écrits de pères de l'Église dès les premières années 100-150 après Jésus-Christ. On a des écrits de pasteurs ou de d'évêques, donc ce qu'on appelle les pères de l'Église, les premiers responsables de l'Église, qui écrivent des commentaires déjà sur les livres du Nouveau Testament. Et en fait, on voit que de ce qu'ils écrivent, on peut déjà voir les lettres et les choses et les textes qu'ils utilisent comme étant la base. Donc ça donne déjà, peut-être 50 ans après, on voit déjà que certains textes apparaissent comme étant déjà l'autorité. On a des fragments, il y a un document ou des fragments de documents qu'on appelle le fragment de Muratori de 170 après Jésus-Christ, qui nous donne une liste avec 22 des 27 livres du Nouveau Testament comme étant des livres importants déjà. Donc ça, c'est déjà quelque chose très tôt aussi. On a ensuite des copies complètes de la Bible telle qu'on l'a nous avec les écrits. Différents codex, on a la Vulgate qui est de Jérôme qui date de 390 environ. On a des choses de 250 à 300 à 500 ans de notre ère. Des documents qui, c'est pas des copies. C'est-à-dire qu'il y a encore le support physique datant de 250 à 300 après Jésus-Christ, physiquement, qu'on a encore avec les écrits tels que nous l'avons maintenant. Et en fait, donc c'est quand même des choses qui remontent à 1700 ans. Vous pouvez aller voir au Vatican, il y a le document que quelqu'un a écrit en 300, quoi. C'est quand même c'est bluffant de se dire qu'il y a des documents, des supports de 1700 ans. Et en fait, en faisant cette recherche, c'était super marrant. L'année dernière, donc c'est ce qu'on appelle le velin. Et en fait, c'est des peaux de bêtes qui sont traités puis mis en place et qui avaient remplacé petit à petit le papyrus. Le papyrus, c'était un support végétal mais qui durait pas très longtemps, donc il devait beaucoup recopier. Alors que le vélin, en fait, les peaux de bêtes, quand elles sont bien traitées et bien stockées, peuvent durer plusieurs milliers d'années, on pense. Ce qui est fou, c'est qu'il y a encore des gens qui disent en fait que les meilleurs supports papier qu'on est capable de produire nous avec toute la technologie moderne actuellement, c'est des supports qui peuvent durer, on pense, peut-être maximum 400-500 ans. Et en fait, le gouvernement anglais et écossais et d'autres gouvernements dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, copient certains documents officiels sur du velin, des peaux de bêtes. Parce qu'ils considèrent que ça a une valeur, que ça peut durer, si c'est bien traité, des milliers d'années, et que ça dure donc beaucoup plus longtemps que des choses en papier. Et en fait, il y a eu tout un débat l'année dernière. Le gouvernement anglais voulait économiser de l'argent et arrêter de copier sur du velin. Et il y a eu tout un débat parce qu'ils ont dit non, qui sommes-nous pour pouvoir nier l'histoire à des gens dans 3 ou 4000 ans qui auraient accès à des documents, et ils considéraient que le prix ce qu'ils allaient économiser n'équivalait pas à la perte potentielle de l'histoire de l'Empire anglais, en quelque sorte. Mais ça me faisait rigoler de me dire que le gouvernement anglais traite des peaux de bêtes pour copier les règles de la loi pour que ça soit conservé très longtemps.
Je me demande quels stylos ils utilisent.
Ouais, des stylos spéciaux. Oh. Et c'est marrant parce qu'ils avaient des photos, donc une personne, il y avait une dame qui est dans un couloir et tu vois il y avait dans un entrepôt spécial avec jusqu'au plafond des peaux de bêtes roulées qui sont stockées sur les trucs. C'est vraiment fou, quoi.
Il y a des collègues à la fac, ils l'ont demandé.
Et c'est tout un débat. Il y a tout un débat actuellement où on se demande comment. Oui, en fait, on s'aperçoit qu'avec le monde numérique, il y a un problème de conservation des données. Et c'est formidable de se dire qu'on a encore des choses qui datent de l'époque de pratiquement de Jésus, alors que. Même dans le monde moderne, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Si vous aviez les choses sur une... J'en sais rien, vous avez écrit il y a 15-20 ans, vous avez mis quelque chose sur une disquette, une vieille disquette, ça va être difficile de le faire lire aujourd'hui. On s'aperçoit même qu'il y a des choses... Par exemple, ils ont... Il y a par exemple les cinématographes, les films. On s'aperçoit que les films qui sont... filmé sur des bobines. Les bobines, on peut les garder longtemps. C'est un support physique qui a l'image imprimée avec le détail. Et on peut, avec des méthodes plus modernes de scan, on peut scanner à une plus grande résolution et quand même avoir une image nette, très nette, à l'écran, avec des vieilles bobines. Et en fait, ils se sont aperçus récemment que les films tournés en 2000-2005 où ils ont commencé à filmer en numérique. Mm-hmm. Par exemple, il y avait le Star Wars, le 1, 2, 3, quand ils ont recommencé à faire des Star Wars. Ils ont filmé avec une résolution et en fait, on s'aperçoit que la résolution est moindre que les télés d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'en numérique, ils ne peuvent pas rescanner. C'est fini. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de possibilité d'améliorer l'image. Ou pas encore de méthode.
Ouais, jusqu'à ce qu'ils
trouvent. Et donc, ils s'aperçoivent. Et toute cette question d'archivage et de conservation des données et du savoir humain est très, très compliquée. Notamment, par exemple, ils s'aperçoivent aussi avec l'Internet que des sites web qu'ils avaient il y a 15 ans, ils ont disparu et c'est fini. Il y a une compagnie aux États-Unis qui s'appelle The Archive, et c'est une société à but non lucratif qui essaie d'archiver les données Internet, qui fait des copies des sites web et qui les garde sur des disques et qui est subventionné en partie par des grandes sociétés aux États-Unis. Mais c'est vraiment des questions... nous, on n'y pense pas, mais par exemple... On parle de nos jours d'un fichier PDF ou d'un JPEG ou d'un... Mais peut-être que dans 50 ans, si vous n'avez pas le bon logiciel pour lire un PDF ou un JPEG, toute cette information, elle ne sert à rien. Et c'est formidable de nous se dire qu'on a encore des copies.
Ça ne vaut pas le velin.
Voilà, ça ne vaut pas le velin, exactement. On a un message complet pour terminer. Le Nouveau Testament... C'est l'Ancien Testament révélé. On comprend mieux le Nouveau Testament si on connaît l'Ancien Testament, et inversement, on connaît mieux l'Ancien Testament grâce au Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. On avait regardé un petit peu les choses avec le fil rouge de la rédemption. De voir tous les types, toutes les choses qui, quand on connaît le Nouveau Testament, qu'on lit l'Ancien Testament, on se dit oui, alors Jonas qui est trois jours dans le ventre du poisson, Moïse qui doit élever un serpent sur un bois au milieu du désert pour sauver le peuple, il faut qu'il regarde à ce serpent. Quand on regarde Abraham qui doit sacrifier Isaac sur une montagne et puis finalement Dieu pourvoit lui-même l'offrande, etc. Toutes ces choses sont tellement évidentes quand on connaît le Nouveau Testament, et donc on s'aperçoit que le Nouveau et l'Ancien se complètent et donnent une image vraiment complète de ce que Dieu veut nous communiquer. On voit que Jésus, lui, confirme par ses paroles et ses actes l'Ancien Testament. Il n'est pas arrivé en disant « j'amène un nouveau truc, l'Ancien, vous pouvez oublier ».
Il y a les missions qui parlaient de Jésus.
On a toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus et qui, on en a parlé, qui sont vraiment incroyables, qui donnent un caractère unique à la Bible. Les apôtres aussi le comprennent très bien, cette correspondance entre l'Ancien et le Nouveau, et le fait que Jésus est partout présent dans l'Ancien Testament et qu'on connaît, c'est une connaissance des deux. C'est les Écritures, c'est les deux. Il s'agit vraiment d'un message complet et unique avec la totalité de l'Ancien et du Nouveau Testament. On avait regardé les prophéties, effectivement. Et on a, notamment dans les Épîtres, dans ce que va dire Paul, un rattachement indiscutable entre le Nouveau et l'Ancien comme étant les deux parties d'une unité, et comme étant indispensables l'un à l'autre. On sait que Paul, souvent, comme il était pharisien, il avait une très bonne connaissance des Écritures, et il est souvent à défendre les Juifs en disant « on a quand même reçu de tout l'Ancien Testament, les prophètes, la loi, etc. » Et ça a une valeur pour nous en tant que chrétiens. Le cours en question, juste je voulais le noter parce que c'est intéressant, même si c'est une hypothèse et une théorie un petit peu, on va dire, un peu sensationnaliste, sur lequel il est facile d'entendre des critiques, mais qui était intéressant. Et c'est l'idée que le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre qui est souvent symbolique de quelque chose de complet, quelque chose d'achevé, quelque chose de parfait au sens où il est achevé. On avait parlé des codes dans la Bible, des lettres équidistantes, différentes choses où on faisait des études sur la Bible pour essayer de voir de manière détaillée, en disant on compte tous les 5 lettres et on va arriver à avoir des messages. En fait, il y avait un mathématicien russe, Ivan Panin, qui a fait toute une étude sur des structures autour du chiffre 7 dans le Nouveau Testament, pour dire que le Nouveau Testament était ce qui nous permettait d'avoir la Bible complète. Et il en a trouvé une quantité ridicule. Il a écrit, on pense que c'est, ils disent que c'est 43 000 pages sur ces codes. Il comptait, et il disait que c'était la signature de Dieu. En fait, lui était athée, ne croyait pas du tout en Dieu. Et en faisant ces études-là, il en est venu à croire en Dieu et croire la Bible. Et il trouve des choses qui sont quasiment impossibles à faire par soi-même, avec des choses par rapport au chiffre 7. Ou, par exemple, si je vous dis, écrivez une histoire, et il faut que vous ayez une généalogie avec un multiple de 7 dans le nombre de personnes, le nombre de générations, il faut que ce soit un multiple de 7. Vous allez utiliser un nombre de mots qui est un multiple de 7, avec un nombre de voyelles qui est un multiple de 7, avec un nombre de consonnes qui est un multiple de 7. Avec... Et en fait, on s'aperçoit, quand il fait ces choses-là, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est impossible à faire, même en voulant le faire. Peut-être de nos jours, avec les ordinateurs, on arriverait peut-être à le faire, et encore, c'est très compliqué quand on veut le faire exprès. Et donc lui, il disait que c'était des choses qui montraient la signature de Dieu. Donc il regarde, si ça vous intéresse, il y a des... Sur Wikipédia, il y a des choses détaillées. Vous pouvez trouver ces livres où il détaille, par exemple, la généalogie de Jésus avec des multiples de 7. Et aussi, il regarde en détail les 12 derniers versets de Marc. Il y a un livre que j'ai regardé qui était en lien sur Wikipédia où il y a un PDF. Vous pouvez regarder. Il explique comment il calcule et tout ce qu'il fait, etc. Toujours est-il que l'idée, c'est que le Nouveau Testament complète l'Ancien Testament, et les deux nous donnent la Bible au complet. On va regarder maintenant les évangiles, la vie de Jésus, puis les épîtres, les actes, Apocalypse. Il nous reste 10 séances. Et on va se consacrer au Nouveau Testament dans les séances qui viennent. Pour regarder tout ça. Voilà pour ce soir.